Bonjour à toutes et tous et joyeux Noël à chacun d'entre vous au sommaire de ce journal. Un cadeau que tous les astrophysiciens du monde ont demandé au Père Noël. Que le lancement du télescope James Webb dans 20 minutes à peu près soit réussi. C'est le plus grand télescope jamais déployé dans l'espace. Il doit nous apprendre beaucoup de choses sur les origines de l'univers notamment. Notre invité du 13h est un de ces scientifiques sur des charbons ardents aujourd'hui, David Elbaz. Le Covid-19 gâche la fête encore cette année en privant certains d'entre nous de retrouvailles en famille. Mais notre isolé du jour fait bonne figure, vous verrez. La pandémie, bien sûr, très présente dans les mots du pape François au Vatican. Il délivre son message de Noël, il appelle au dialogue face à la tentation du repli sur soi. On va retrouver Bruce de Galzin en direct de Rome dans ce journal. À Calais, l'évêque d'Arras a célébré une messe de Noël au milieu des migrants hier soir. Alors qu'en Grèce, deux naufrages en quelques heures ont fait au moins 30 morts. La météo, toujours doux et humide cette journée de Noël, nous dira Jean-Pierre Hameau. Et puis à 13h20, Secret d'info avec Jacques Monin, émission spéciale qui revient sur trois enquêtes exceptionnelles.
France Inter.
Décidément, il s'incruste. Le Covid-19 ne fait pas la trêve à Noël. Plus de 94 000 nouveaux cas hier en 24 heures, selon Santé publique France. C'est du jamais vu. Et derrière ce chiffre, des Français condamnés à rester isolés pour les fêtes de Noël. Ils sont plusieurs centaines de milliers, comme Jean-Baptiste. Il devait passer le réveillon dans sa famille en Normandie et le repas de ce midi dans sa belle famille, finalement. Il est resté en amoureux à Paris, car au moment de partir, un collègue l'a appelé pour lui dire qu'il était cas contact.
Les cadeaux étaient dans le coffre de la voiture, hein, les valises dans l'entrée. Donc aussitôt, pharmacie, test antigénique, et puis le résultat était positif. Là, ça a été un vrai crève-cœur. Il a fallu sortir tous les cadeaux du coffre, déballer les valises. Enfin, c'était quand même très, très raide et très dur à avaler. Aucun symptôme. Donc, c'est d'autant plus frustrant qu'on est en pleine forme. On a appelé tout le monde, on a tout annulé. Et on s'est dit, faut surmonter le moral, faire un réveillon tout de même. Il était hors de question de se faire happer par une démoralisation ou par un Noël en berne. Donc, on s'est dit, déjà à 18h30, 19h, on est parti se changer, mettre une petite tenue de fête, la playlist avec les morceaux de Noël incontournables et surtout un repas, quoi. On s'est fait un bon repas. Impossible de pas faire Noël, quoi. Donc, on a été chercher l'esprit de Noël tout de même dans nos cœurs, dans nos esprits, puis surtout en amoureux avec une bougie. On a fait un dîner aux chandelles et ça, c'était super pour remonter le moral.
Voilà le mode d'emploi de l'isolé idéal, des propos recueillis par Delphine et nous. Bon, malgré tout, pour ceux qui ont eu la chance de se retrouver, c'est le scénario habituel maintenant. On réveillonne, on profite, on mange bien. Ça, c'était hier. Mais on remet ça ce midi et peut-être ce soir et peut-être encore demain. Certains font une pause en ce 25 décembre, mais beaucoup continuent comme ces Niçois. Croisé par Rachel Sadoudine.
On fait soi encore, on va manger, on va aller se promener, on va boire un bon coup, voilà. Pour digérer, bord de mer, balade bord de mer, on a des coins superbes.
Jeux société, en famille.
C'est quoi vos préférés ?
Des jeux de questions-réponses, devinettes, un peu de culture générale, faire marcher le cerveau avec les ébullitions de l'alcool, c'est pas mal.
Pas de repos, non, malheureusement, j'aurais bien aimé pour mon estomac, mais non, ça va. Faire une petite sieste et puis on va récupérer pour se préparer pour le lendemain, puisqu'il y a encore un repas le dimanche.
Oui, décidément, ça ne s'arrête pas. Rachel Sadoudine, au reportage de France Bleu Azur. Lui non plus ne s'arrête pas. Le variant Omicron du Covid-19 vient perturber fortement le trafic aérien en cette période de fête. Plus de 4500 vols sont annulés partout dans le monde par les compagnies aériennes. Des milliers d'autres accusent des retards en cause. Le personnel positif qui doit rester à l'isolement. En Savoie, face aux cas qui se multiplient chez les touristes dans les stations de ski, la préfecture a décidé de durcir les restrictions sanitaires. C'était masque et passe sanitaire obligatoire dans les remontées mécaniques. Maintenant, c'est plus strict en bas des pistes. Masque obligatoire partout dans les zones de forte affluence qui occasionnent des rassemblements de plus de 10 personnes. Et surtout, plus de vente d'alcool après 16 heures. Plus question de consommer debout, dehors, une fois les skis déchaussés. C'est un coup dur de plus pour les bars au pied des pistes, alors que la fréquentation est déjà en baisse. Cyril Bonnevie est le directeur du bar Le Cocorico à Val d'Isère.
Il y a à la fois de l'énervement, de l'incompréhension. C'est pas nous qui sommes responsables de cette situation. Nous, on fait le job depuis le début. Ça a déjà changé depuis 15 jours, c'est pas à partir de demain. Vous pensez que nous, aujourd'hui, l'industrie de la montagne, elle vit énormément du tourisme international. Quand dès lors, on nous laisse ouvert et qu'on nous interdit le flux de nos clients habitués au niveau international, que ce soit au niveau de l'Angleterre, que ce soit au niveau maintenant des pays nordiques et tout, il y a une fréquentation qui est nettement inférieure à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais nous, on sait que les conséquences de cet hiver, ils vont être catastrophiques. C'est encore pire ce qui se passe. C'est qu'on nous laisse ouvrir, mais on nous enlève quasi tous nos clients.
Voilà, la colère de ce bar, de ce patron de bar recueilli par Louis Fontaine de France Bleu, pays de Savoie, la préfecture de Savoie, qui indique aussi que les feux d'artifice et descentes au flambeau du Nouvel An sont annulés partout. L'épidémie de Covid-19 qui imprègne les fêtes de Noël dans le monde entier. Et le message de Noël que le pape François a adressé à midi depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre à Rome, c'est sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. L'an dernier, Covid oblige, la place Saint-Pierre était bouclée et vide. Mais cette fois, des milliers de fidèles étaient réunis pour écouter le pape. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Le pape qui s'est d'abord concentré, Bruce, sur la pandémie.
Ah oui, devant quelques milliers de fidèles, puisqu'il pleuvait, ils sont déjà repartis. Mais François a donc délivré son message à la planète entière en voulant d'abord s'adresser à chacun, alors que la pandémie nous prive de rencontres et de dialogues, dit François, et il s'en inquiète.
Notre capacité à entretenir des relations sociales est mise à rude épreuve. La tendance se renforce à se replier sur soi, à faire cavalier seul, à renoncer à sortir, à se rencontrer, à faire des choses ensemble. Également au niveau international, il y a le risque de ne pas vouloir dialoguer, le risque que la crise complexe incite à choisir des raccourcis plutôt que les chemins plus longs du dialogue.
La pandémie a aussi pour effet d'augmenter les violences faites aux femmes, dit François, qui s'inquiète également pour les enfants et adolescents victimes de harcèlement et d'abus, et pour les plus âgés, laissés les plus seuls. Enfin, le pape réclame une nouvelle fois des vaccins pour les plus démunis.
Et Bruce, le pape a dessiné également la carte des conflits du monde et des conflits oubliés notamment.
Ah oui, des conflits qui ne semblent jamais devoir finir et que nous ne remarquons plus. Nous nous y sommes tellement habitués que d'immenses tragédies passent désormais sous silence, dit le pape, et d'évoquer la Syrie, le Yémen, l'Irak, les tensions entre Palestiniens et Israéliens. François est inquiet pour le Liban, mais aussi l'Ukraine, l'Afrique du Nord et le Sud-Soudan. Et bien sûr, François demande de ne pas être indifférent face au drame des migrants. C'est même par ces mots qu'il a terminé son message.
Les guerres, les conflits, et oui, ceux qui les fuient et qui tentent d'échapper à la misère, à la menace climatique, c'est pour eux justement, ces migrants qui étaient organisés hier à Calais, un mois, jour pour jour, après la mort de 27 d'entre eux noyés dans la Manche en tentant de rejoindre l'Angleterre depuis la France, qui était organisée une messe hier soir. C'est l'évêque d'Arras qui l'a célébrée, cette messe, sur un parking près d'une zone de campement. L'idée, c'est Philippe de Mester qui l'avait eu, cet aumônier du Secours populaire qui avait observé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de vie de ces migrants de Calais. Olivier Le Borgne, l'évêque d'Arras, n'a pas hésité à être là.
La nuit de Noël, il me semble que ça a beaucoup de sens d'aller prier avec des gens en grande précarité. Ça dérange. Eux auraient préféré ne pas être là. Il ne faut à aucun moment imaginer qu'ils ont plaisir à être là. Et nous aurions préféré qu'ils soient bien chez eux ou bien dans un pays d'accueil, mais pas dans cette situation-là. Et donc c'est une vraie question. Comment permettre à tout le monde de trouver une place en période de mondialisation? J'ai pas la réponse. Je fais la leçon à personne. La seule chose que j'ai dit, nous ne pouvons pas nous résigner à l'inhumain. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que des gens ne trouvent pas la place. Et donc cherchons ensemble. Alors voilà que la foi qui n'est pas du tout de l'ordre de la politique, eh ben elle est un enjeu politique. C'est vrai qu'aimez-vous les uns les autres. Cette parole de Jésus que beaucoup aiment me rappeler, elle a un écho très fort. Elle ne dit pas aimez-vous les uns les uns. Moi-même, je peux être traversé de peur, je peux être traversé d'inquiétude. La nuit de Noël, je m'en rappelle et je sais qu'aucune personne ne peut être passée en pertes et profits parce que Dieu a choisi de se faire homme et que tout homme a un prix infini à ses yeux.
Tout homme a un prix infini à ses yeux, l'évêque d'Arras au micro de Mathieu Darrier de France Bleu Nord. 30 morts, au moins, c'est le bilan d'une série de naufrages d'embarcations transportant des migrants au large des côtes grecques. 3 naufrages en 3 jours, en moins d'une semaine. des bateaux partis de la Turquie voisine. Des drames parce que la Grèce durcit sa politique migratoire et que donc passeurs et migrants ont tendance à choisir des routes de plus en plus périlleuses, notamment pour rejoindre l'Italie. À Athènes, Joël Brunner.
Paros, Folegandros, Anticyter, les îles grecques au large desquelles ont eu lieu les trois derniers naufrages de demandeurs d'asile et de migrants n'étaient pas référencés jusque récemment sur la carte des routes migratoires. Depuis 2015, les canaux accostaient surtout sur les îles grecques les plus proches de la Turquie, comme Lesbos ou Samos, qui abritent depuis des camps de réfugiés. Cette évolution géographique est notamment due au durcissement progressif de la politique migratoire d'Athènes, orchestrée par le pouvoir conservateur aux manettes depuis 2019. Multiplication des rejets de demandes d'asile, camps de plus en plus fermés ou encore refoulements très fréquents, tous ces facteurs participent ainsi à l'apparition de routes migratoires alternatives. D'autant que les autorités l'ont maintes fois répété depuis cet été, la Grèce ne veut pas redevenir la porte d'entrée de l'Europe. Sur l'ensemble de la Méditerranée, la dangerosité des routes migratoires a causé officiellement la mort cette année de plus de 1300 personnes, et probablement le double selon les estimations. Athènes, Joël Brunner, RFI pour France Inter.
Merci Joël Brunner. Au Yémen, l'Arabie Saoudite annonce lancer une opération militaire à grande échelle. Ce sont les mots du régime. Sa réponse à une attaque mortelle sur le territoire saoudien menée par les rebelles Houthis en guerre au Yémen contre les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite. Contre-attaque militaire donc décidée par Riyad à laquelle les rebelles Houthis promettent une réponse douloureuse. Allez, encore quelques minutes de patience, d'attente, d'espoir. Et James Webb s'élancera dans l'espace, embarqué sur la fusée Ariane 5. Ce lancement depuis Kourou, en Guyane, du plus grand télescope jamais déployé dans l'espace, c'est un événement gigantesque pour les astrophysiciens, la NASA et les agences spatiales européennes et canadiennes qui l'ont conçu. Et pour nous aussi, bien sûr. James Webb est le successeur de Hubble, lancé en 90, qui a fait progresser l'observation et la connaissance de l'univers. Mais il fera mieux, il verra plus loin, il nous apprendra plus. Son lancement est programmé à 9h20, heure de Guyane, 13h20, heure française. Autant dire que c'est imminent. On imagine l'état de stress de notre invité du 13h, David Elbaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA à Saclay, le commissariat à l'énergie atomique. Alors le télescope James Webb, c'est un projet né il y a plus de 20 ans, qui a mis du temps à aboutir, qui coûte beaucoup d'argent, dont on attend beaucoup. À quelques minutes du lancement, quel est le sentiment qui domine chez vous, mais sans doute chez tous les astrophysiciens?
Alors bien sûr, il y a une émotion très forte, un peu comme dans une naissance, comme si on voyait... Parce que le James Webb, en plus, il va voir les naissances dans l'univers. Donc on est en train de voir la naissance d'un satellite qui va nous permettre de voir des naissances dans l'univers. Et c'est un peu comme si, vous savez, on ouvrait pour la première fois le tombeau de Toutankhamon et on allait découvrir tous ses trésors. Mais avec une différence, c'est qu'on va le voir en vie. On va voir le passé de l'univers au moment où ça se passait en vie. On va voir naître des étoiles, des galaxies qu'on n'a jamais vues. Et on aura des surprises. On le sait. On ne sait pas lesquelles, mais il va y en avoir.
Alors, avant de voir tout ça quand même, David Elbaz, il va se passer un peu de temps. Parce que le processus, il y a déjà le lancement par Ariane 5. Mais après le lancement par Ariane 5, première phase évidemment délicate, il y a tout un tas d'opérations... délicate aussi, oui. qui vont rendre encore le suspense important pendant plusieurs mois.
Oui, alors c'est ça qui rend le James Webb un peu particulier. C'est qu'une fois qu'il sera lancé, contrairement à d'autres cas, c'est pas fini. En fait, au bout d'une demi-heure, il va être laissé libre en dehors de la fusée. Puis au bout de quelques minutes, il a un petit propulseur qui va l'envoyer à son orbite. Il vise une destination qui est à 1,5 million de kilomètres de nous. Il mettra un mois pour y arriver. Et pendant qu'il va voyager... Il va se déployer, parce qu'il était tout replié dans la fusée, et il va déployer d'abord un pare-soleil qui fait la taille d'un terrain de tennis. Ensuite, il va déployer ses miroirs qui sont repliés sur eux-mêmes, et tout ça, ça va mettre 2 semaines. Et donc là, au bout de 2 semaines, on saura si oui ou non ça peut fonctionner. Et puis il va continuer à voyager pendant encore 2 semaines, il va être testé pendant des mois, et en juin à peu près l'année prochaine, on est tous, moi j'ai mon collègue américain qui vient chez nous exprès pour recevoir les premières images, on va attendre le premier regard sur l'univers lointain, les confins de l'univers, la naissance de planètes et éventuellement la détection de molécules dans d'autres planètes autour d'autres étoiles.
Alors, je crois que la NASA a recensé environ 300 opérations un peu difficiles et qui seront importantes. Comment on tient ce suspense?
Alors ça, c'est vrai que c'est une première, hein, parce que en général, on essaye toujours d'éviter des mécanismes comme ça dans un satellite, parce qu'il y a des vibrations énormes au lancement. Et il y a des tests qui ont été faits sur des satellites où toutes les vis partaient. Ils se démontaient. Et donc, mettre des mécanismes qui vont se déployer dans l'espace, en général, on évite. Mais là, on ne peut pas, parce qu'il faut un télescope très grand pour regarder dans l'invisible, dans l'infrarouge. Et ça, ça demandait de se déployer. Alors, effectivement, ça va être un test, mais s'il y a eu tout ce retard, si ça a coûté si cher, c'est pour tester, valider, revalider tous ces mécanismes.
Regarder dans l'invisible, ça permet de comprendre la naissance, mieux comprendre sans doute, on l'espère, la naissance de l'univers, la vie et la mort des galaxies. À quoi ça sert de le savoir?
Alors c'est une très bonne question. D'une part, c'est remonter, franchement, le James Webb, c'est le satellite de nos origines. Hein. L'origine de la vie sur d'autres planètes, l'origine des étoiles et des galaxies. Et c'est une question qui nous habite tous, de savoir d'où on vient, etc. Et puis pour les scientifiques, c'est aussi une façon de tester notre compréhension, nos lois de la physique, aux limites possibles de la naissance des premiers objets. Voir comment les trous noirs sont apparus, comment ils ont peut-être donné naissance ou tué des galaxies, etc. Voir si la matière noire qu'on ne connaît pas est celle qui a donné naissance aux galaxies. Et si jamais les lois de la physique aux confins de l'univers ne sont pas celles qu'on croit, ça changera notre vie ici. Donc ça peut avoir des répercussions sur nous maintenant.
Merci beaucoup David Elbaz. On imagine que vous allez suivre, et d'ailleurs ici dans les murs de la maison de la radio, ce lancement de James Webb dans maintenant normalement un peu moins de 4 minutes. Merci beaucoup à vous. Alors on était tout à l'heure au Vatican, mais il y a un autre discours très attendu le jour de Noël. Oui, parce que c'est Noël, celui d'Elisabeth II en Grande-Bretagne. Elle adressera ses traditionnels vœux de Noël à ses sujets à 16h dans une vidéo enregistrée la semaine dernière. C'est la première apparition de la reine d'Angleterre depuis des semaines, alors qu'on s'inquiète de sa santé fragile. Richard Place est à Londres.
Une nuit à l'hôpital en octobre dernier, la première en 22 ans, et des annulations en pagaille. Elisabeth II a beaucoup délégué ces derniers mois. Son fils, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, ont assuré la plupart de ses engagements. À 95 ans et en pleine pandémie, la reine reste au château de Windsor. Elle a même renoncé aux habituelles grandes réunions de famille de fin d'année. Nous assistons à un passage de témoin, selon le chroniqueur royal Duncan Larcombe.
Personne ne veut qu'elle devienne une reine virtuelle qui reste dans son palais et répond à ses obligations sur un ordinateur via Zoom. Elle-même ne le voudrait pas. Son règne a été caractérisé par sa manière d'aller à la rencontre des gens. C'est une monarque directe, face à face, mais la reine est aujourd'hui au crépuscule de son règne.
Dans la vidéo diffusée aujourd'hui, elle évoquera le prince Philippe, disparu en avril dernier, son mari pendant 73 ans. D'ailleurs, accrochée à sa robe rouge, une broche avec un motif de chrysanthème, celle qu'elle portait en 1947 pour leur lune de miel. Elisabeth II devrait délivrer un message un peu plus personnel que d'habitude, des mots attendus par ses sujets qui veulent fêter ses 70 ans de règne en juin prochain. Londres, Richard Place, France Inter.
Le message d'Elisabeth II à ses sujets anglais à 16h, heure française, en vidéo. C'est Noël. Et donc, on regarde le choix culturel de cette semaine de Stéphane Capron, qui nous a choisi un livre monumental, toute l'œuvre de Pierre Henry, résumé dans un catalogue raisonné qui vient d'être édité par la Philharmonie de Paris, 400 pages, pour retracer 72 ans de la carrière de l'inventeur de la musique électronique, 4 ans après sa mort. Un livre document pour s'imprégner, Stéphane Capron, du génie de Pierre Henry, qui jusqu'à la fin de sa vie a toujours travaillé la matière sonore.
En décembre 2015, Pierre Henry nous reçoit dans sa maison de la rue de Toul, sa dernière demeure qui sera détruite après sa mort. Au milieu des nombreux magnétophones qui occupent toutes les pièces, il préparait un nouveau concert à la Philharmonie.
Le secret de fabrication, c'est moi. Il n'y a pas d'appareillage particulier. Il y a une très grande rigueur dans les mixages, les synchronisations. Tout ça est très juste, comme si c'était joué par un orchestre. C'est mes trouvailles depuis toujours qui fonctionnent comme si je jouais moi-même un instrument aussi.
Isabelle Varnier, la femme de Pierre-Henri, veille sur les archives avec Bernadette Mangin qui a été son assistante. C'est grâce à leur travail méticuleux que l'on peut aujourd'hui se plonger dans l'immensité d'une œuvre que l'on a tort de réduire à la messe pour le temps présent. Cet ouvrage de 400 pages montre toute la richesse et l'inventivité de ce précurseur capable de rassembler des milliers de spectateurs pour des concerts gigantesques à la fête de l'Huma ou créer des pièces plus intimistes. Pierre-Henri a composé autant pour le cinéma que pour la scène ou la publicité. Ses œuvres ont marqué plusieurs décennies de l'histoire de la musique et sont à l'origine de l'électro d'aujourd'hui.
Voilà, Pierre-Henri, l'œuvre, le catalogue raisonné aux éditions de la Philharmonie. C'est le choix culturel de Stéphane Capron.